Passe croisée, c'est le magazine du rugby en Orisère et c'est sur Couleur FM. Bonjour et bienvenue dans Passe croisée, le magazine du rugby en Orisère sur Couleur FM. Et c'est déjà le numéro 3. C'est également le moment de la saison où on commence à faire un premier bilan après les premiers matchs. Et cette semaine, c'est Florent Côté, un autre excellent confrère du Dauphiné Libéré, qui a accepté avec nous de décrypter un petit peu ce début de saison. On l'écoute tout de suite avec un premier regard sur nos équipes engagées en Fédéral 3. Alors bonjour Florent Côté et merci d'avoir accepté de décrypter pour Couleur FM le début de saison des équipes norisèroises de Fédéral 3, de Fédéral 2 et de Fédéral 1. Je vais vous proposer tout de suite de peut-être commencer par les trois équipes de Fédéral 3 que nous suivons sur Couleur FM, à savoir l'AS Mida, les Vallons de la Tour et Saint-Jean-de-Bournay. Pour vous, ce début de saison, en quelques mots?
Le championnat de Fédéral 3 a commencé le week-end dernier et plutôt bien commencé, puisque ces équipes ont pris des points, bien évidemment en mettant en exergue la performance de la Spida qui est allée s'imposer à Pontclé au terme d'une deuxième mi-temps avec un chassé croisé au score et surtout un essai collectif à la Spida, j'ai envie de dire, dans les toutes dernières secondes qui a permis de rafler la mise. Belle performance également des Vallons de la Tour et de Saint-Jean-de-Bournay qui sont allés chercher des points de bonus défensifs respectivement à Renage et Iso. Alors des points qui n'ont pas forcément la même valeur puisque le RCVT était en tête au score et a perdu à la toute dernière seconde sur pénalité alors que Saint-Jean-de-Bournay qui s'attend à souffrir cette saison a ramené un point plutôt inattendu d'Iso.
Alors justement, vous parliez de Saint-Jean-de-Bournay qui s'attend à souffrir. Des trois équipes, laquelle vous qui suivez ça avec beaucoup de précision, vous sentez la mieux armée?
Traditionnellement, la SPIDA est toujours une équipe qui joue la qualification pour les phases finales en Fédéral 3, bien que ce soit un club qui n'ait pas plus de moyens, en tout cas pas de moyens financiers supérieurs à ses concurrents, mais qui s'est toujours optimisé ses moyens, notamment en faisant de la formation et un recrutement souvent efficace basé sur le bouche à oreille. Après, les Vallons de la Tour se sont renforcés pour leur deuxième saison en Fédéral 3. Ils se sont donné la possibilité de faire mieux que la saison dernière où ils ont terminé premier non relégable. En revanche, l'intersaison a été délicate, pour ne pas dire plus, pour le rugby Pays Saint-Janet qui a perdu beaucoup de joueurs, qui a changé de président, qui a changé d'entraîneur, qui est reparti avec un effectif complètement renouvelé, mais avec beaucoup de jeunes et beaucoup d'enthousiasme autour de son entraîneur. J'ai envie de qualifier d'historique, hein, Fabrice Polos, qui est déjà passé par Saint-Jean, qui a déjà eu des résultats et qui va tenter de relancer ce club qui a souffert la saison dernière et qui était relégué, qui a profité de la réforme de la FFR pour rester en Fédéral 3.
Merci pour cet éclairage sur la Fédéral 3. Alors, en Fédéral 3, les Vallons de la Tour, qui avaient été battus la semaine dernière dans les ultimes secondes du côté de Rive-Ronage, ont remporté une courte mais très précieuse victoire à domicile contre Bourg-Père sur le score de 16-13. Les Vallons de la Tour qui se rendront dimanche prochain du côté du Rhône 15, qui est en fait l'équipe de Bourg de Péage dans la Drôme. De son côté, Saint-Jean-de-Bournay, qui avait été également battu à domicile en ouverture de la saison, s'est à nouveau incliné. Cette fois, c'était du côté d'Ampuy, 25-17, au terme d'un match qu'on qualifiera de heurté, avec notamment une très très grosse bagarre générale à la fin de la première période, hein, qui nous a rappelé un petit peu le rugby d'antan. Saint-Jean-de-Bournay qui recevra Cessin la semaine prochaine, avec quasiment déjà un impératif de victoire, hein, pour enfin engranger quelques points au classement général. De son côté, l'AS Mida du vice-président Potet, hein, qu'on a écouté la semaine dernière dans Passe croisée, avait parfaitement lancé sa saison avec une victoire à l'extérieur. Eh bien, les Rouges et Blancs ont souffert cette fois pour gagner à domicile face à Rive-Ronage sur le score de 20-18. Ils ont notamment encaissé deux essais dans le dernier quart d'heure qui ont fait passer des frissons dans le dos de leurs supporters. Deux matchs de victoire, c'est presque un début de saison parfaite pour l'équipe de l'AS Mida avant un déplacement, là encore un derby du côté de Bourg-Père dimanche prochain. On va enchaîner avec la Fédérale 2 et du coup on écoute à nouveau ce que nous disait Florent Côté du Dauphiné Libéré sur cette Fédérale 2 avec une seule équipe norisèroise engagée, ce sont les Jaunes et Noirs de Saint-Savin. On va passer tout de suite à la Fédérale 2 avec le Saint-Savin, hein, entraîné par Yann Labrit, qui lui a rattaqué samedi dernier contre Voiron avec une courte victoire.
Oui, l'équipe de Yann Labrit et Éric Lachaise qui recevait Voiron, et comme les Saint-Savinois ont pris l'habitude depuis la saison dernière, ils avaient le match au samedi après-midi pour faire venir plus de monde au stade de l'église. Ça a marché d'ailleurs, il y a une belle chambrée. Et une victoire. Une victoire pas si facile que ça, qui aurait même pu s'inverser dans les dernières minutes, mais une victoire qui a le mérite de faire la saison des jeunes et noirs qui ont fait un choix cet été au niveau de leurs dirigeants de faire peut-être moins de recrutement extérieur, de faire plus confiance aux jeunes, sincèrement être aussi un club formateur et se sont rendus compte en cours de saison dernière qu'il fallait aussi savoir miser sur ces jeunes-là, leur faire confiance. Et cette victoire va leur donner du moral et certainement les conforter dans leur choix pour continuer à travailler et à progresser.
Les jaunes et noirs de Saint-Savin qui menaient 14-10 à la mi-temps du côté d'Annecy en Haute-Savoie avant de s'incliner 37-27 au terme d'une seconde période très très animée, un petit peu folle. Les hommes de Yann Labrit devront se relancer en recevant Saint-Priest, l'équipe de la banlieue lyonnaise. Une équipe de Saint-Priest assez impressionnante en ce début de saison puisqu'elle reste sur 2 victoires d'affilée lors de ses 2 premiers matchs. On enchaîne donc avec la Fédérale 1. La Fédérale 1 et on écoute, comme pour la Fédérale 2 et la Fédérale 3, ce qu'en pense notre ami Florent Côté. Alors maintenant, un petit focus d'abord sur la Fédérale 1, on va dire classique, hein, où évolue le CS Vienne. Le CS Vienne qui a choisi, ou qui plutôt subi, trois matchs à l'extérieur en raison des travaux dans son stade. Une première défaite assez lourde, hein, du côté de Nîmes. Et puis, un petit peu mieux, même si ça a été difficile, hein. On a eu le président de Vienne sur Couleur FM. Du côté d'Iyar Karkeran, avant de se déplacer à nouveau dans le sud, à Grasse, des Viennois qui globalement visent le maintien. Et le président nous disait le plus tôt possible, ce serait pas mal.
C'est vrai que ça a dû être difficile la semaine dernière du côté de l'Iyar Karkeran, mais je pense que tous les Viennois ont signé pour ce résultat parce qu'aller gagner chez les Varois, c'est jamais facile. Iyar Karkeran est champion de France de Fédéral 2 en titre, un effectif aussi très compétitif avec beaucoup d'anciens joueurs de Pro D2, voire de Top 14. Et les Viennois ont complètement déjoué les pronostics, ça a été la très bonne surprise du dernier week-end. Et cette victoire qui n'était pas prévue va vraiment lancer leur saison. Effectivement, vous l'avez dit, ils ont 3 matchs à l'extérieur pour commencer. Et ça va leur donner un joker en attendant de pouvoir refouler leur pelouse du stade d'Etcheverry. Moi, je suis assez confiant pour ce 16e. Qui parle de maintien parce qu'ils ne l'ont jamais décroché sportivement, mais je pense qu'ils ont les moyens de faire de l'avoir et de faire peut-être même un petit peu mieux.
Alors, les Viennois du président Bazin se déplaçaient pour la 3e fois en raison des travaux dans leur stade Etcheverry. Vous savez qu'on refait notamment un système d'irrigation qui permettra de prendre grand soin de la pelouse. Hein. La pelouse viennoise va être digne d'un gazon anglais. Eh bien, les Viennois sont retournés dans le sud, du côté de Grasse, où ils se sont assez lourdement inclinés, 31-17. Ils n'auront pas de match le week-end prochain pour cette équipe ciel et blanc, puisque les poules de Fédéral 1 comptent en effet 11 équipes, et chaque week-end, une équipe est exempte, et ce sont donc les Viennois qui seront exempts la semaine prochaine, avant de retrouver cette fois leur terrain à Vienne. Ce sera le 8 octobre, et ce sera face aux Parisiens de Suresnes. On écoute également le président de Vienne, hein, qui, pendant la semaine, nous a accordé une petite interview pour Couleur FM. On écoute Hervé Bazin, qui nous parle de ce début de saison des Ciels et Blancs. Alors bonjour Laurent Bazin, et merci d'avoir accepté l'invitation de Couleur FM. Tout d'abord, pour faire un petit point sur le début de saison du CS Vienne, une défaite du côté de Nîmes, avant une victoire qu'on va qualifier d'encourageante du côté de Iyar Karkeran. Est-ce que c'est comme ça que vous, président du CS Vienne, vous avez vécu les choses?
Et bonjour à tous, oui, ben écoutez, en effet, on a un départ laborieux à Nîmes. On s'est très bien repris la semaine passée, enfin le week-end dimanche dernier avec Karkeran, hier plutôt. Et on a fait une très bonne rencontre, on a été très solidaires et c'est très encourageant en effet. Maintenant, on n'est pas arrivé, mais on est très contents en tout cas.
Alors, quelles sont les ambitions du club cette saison? On va plutôt parler de maintien?
Oui, en effet, l'ambition affichée, c'est le maintien. Et le plus vite possible, voilà, pour éviter de faire comme on a fait les dernières saisons, c'est-à-dire l'ascenseur. Donc, on fanfaronne pas, on bosse pour le maintien.
Vous avez choisi de disputer, enfin choisi, vous avez été un petit peu contraint de disputer les 3 premiers matchs à l'extérieur en raison des travaux dans votre stade. Est-ce que c'est un handicap supplémentaire ou est-ce que vous pensez qu'au contraire c'est relativement neutre par rapport à la suite de la saison?
Ben honnêtement, au début, je pensais que c'était un handicap. Et puis, vu le résultat de dimanche dernier, ben finalement, ça se goupille bien. Mais non, c'est vrai que démarrer avec 3 matchs à l'extérieur, on aurait très bien pu faire ces 3 matchs avec 0 point au bout. Et là, ça devenait compliqué. Donc, la victoire de dimanche dernier nous fait du bien aussi, ce aspect-là.
Alors j'imagine que maintenant vous êtes un petit peu focalisé sur Grasse. Comment vous le sentez ce match? Encore un voyage dans le sud?
Oui, un voyage dans le sud. Écoutez, comme la semaine passée, on va mettre les moyens pour essayer de ramener quelque chose de là-bas, des points, quoi. Donc on sait que ça va pas être simple parce que Grasse c'est une équipe de Fédéral 1 avec des arguments, de beaux arguments. C'est une poule qui est assez compliquée à appréhender parce qu'on voit des résultats assez différents d'un week-end à l'autre. Donc on y va avec nos arguments puis on va essayer de ramener quelque chose.
Et alors le premier match dans ce stade, on va dire rénové avec un investissement assez important, notamment sur le drainage. Il est pour quand?
Le premier match c'est le 8 octobre contre Suresnes. On sort à Suresnes. En effet, les travaux ont été faits par la mairie c'est un arrosage automatique pour améliorer le terrain. Quoi. Voilà. Donc c'est le 8 octobre contre Suresnes et on espère bien démarrer chez nous.
En demandant à tous les supporters qui écoutent l'émission évidemment de rejoindre le stade et en vous souhaitant une très très bonne saison pour le 16e président.
Eh ben merci beaucoup. Merci.
En revanche, pas de match pour le CSBJ, qui effectivement était l'équipe exempte en Fédéral 1 Elite et qui ne jouera pas non plus la semaine prochaine, puisque là, c'est l'ensemble de la poule qui fait relâche. Les Bergeliens seront de retour sur la pelouse, ce sera le 6 octobre, et ce sera évidemment à Pierre-Rajon. Nous y serons avec Couleur FM pour vous ramener quelques interviews et quelques réactions d'après-match. Le match aura lieu à 20h45, et ce sera face au promu Rouen. Rouen qui s'est par contre lourdement incliné le week-end dernier face à Valence-Romans sur le score de 48-27 des Bergeliens, qui après leur première victoire à Rajon et leur match nul encourageant du côté de Valence-Romans auront à cœur de poursuivre leur belle série en venant à bout de ce promu normand. Alors à tout seigneur, tout honneur, on va terminer par la Fédérale 1 Elite et le CSBJ. Alors le CSBJ, on peut dire entre nous que c'était un petit peu l'inconnu en ce début de saison, hein, renouvellement d'effectifs, bouleversement du staff après la difficile saison dernière. Et puis finalement la bonne surprise, une première victoire à Rajon contre une grosse écurie, hein, Aix. Et puis ce nul du côté de Valence-Romans où je crois vous étiez, Florent. Alors ce CSBJ New Look, qu'est-ce que vous en pensez?
Inconnu, je pense qu'on peut même dire dans le tour total, il y a tellement de changements. Peut-être Pierre-Rajon cet été, cette saison n'a pas été simple, ils ont attaqué l'entraînement plus tard que tout le monde, ils ont eu des petites péripéties. Mais finalement, toutes ces difficultés ont beaucoup soudé le groupe de ceux qui sont restés, de ceux qui sont revenus, de ceux qui ont fait le choix pas facile de relever ce challenge de la fédéraliste avec une tête de vie. Et c'est vrai que pour l'instant, souris aux Bergeliens, mais le mérite leur en revient avant tout. Hein. Les joueurs, les entraîneurs, ils ont vraiment bien préparé leurs affaires. Et que ce soit contre l'Aix-en-Provence ou à Rouen samedi dernier, ils n'ont pas volé leur résultat. Une victoire probante contre les Provençaux, à match nul qui avait pour beaucoup des allures de victoire au Stade Clermont. Et pour l'instant, c'est tout bénéfice pour les Cyrégonnats. Souhaitons.
Eh bien, en tout cas, merci Florent pour cette analyse. On se permettra de vous rappeler en cours de saison pour nous donner vos éclairages. Et puis, bonne saison rugbystique à vous. Voilà pour les résultats et voilà pour les matchs de la semaine prochaine. Et alors, on a décidé, comme l'actualité nous le permettait, de laisser la parole à certains de ces bénévoles qui font aussi l'honneur du rugby français. Nous avons rencontré pour Couleur FM Fabrice Alandrieux. Fabrice Alandrieux, c'est le président du COP Bergusia 16, une des associations de supporters, qui nous a raconté, eh bien finalement, comment il était tombé dans cette passion et comment surtout il avait vécu à la fois les saisons difficiles et puis peut-être la saison, en tout cas, on l'espère, de la renaissance du club. Fabrice Alandrieux qui s'est confié à Couleur FM. On l'écoute tout de suite. Bonjour Fabrice Alandrieux, président du COP Bergusia 16, et merci d'avoir accepté l'invitation de Couleur FM pour nous parler un petit peu de cette association et de son activité. Alors tout d'abord, c'est quoi l'histoire de COP Bergusia 16 qui regroupe les supporters qui, si mes informations sont bonnes, se réunit plutôt dans la tribune côté buvette au stade Pierre Rajon?
Oui, c'est ça, tout à fait. Le COP Bergusia 16 a été créé en 2004 avec une bande de copains parce qu'il y avait besoin d'avoir un club de supporters pour encourager l'équipe au stade et en dehors des matchs. Donc voilà, un peu la genèse du COP Bergusia.
Et alors comment Fabrice Alandrieux en est devenu président et depuis quand surtout vous l'êtes?
Alors moi, ça fait 3 ans que je suis au bureau, mais avant je m'occupais surtout des déplacements. Et depuis l'année dernière, on était co-président avec l'ancien président Gérard Mandran. Et depuis cette année, donc, j'ai pris la présidence du COP Bergusia 16. Voilà, Donc c'est vrai que j'ai toujours suivi le CSBJ puisque j'ai étudié à Jean-Claude Aubry lorsque j'étais au lycée. Donc j'avais un peu des informations où ils étaient pas loin du stade. Et puis après j'ai dû partir hors de la région pour mes études. Donc j'ai pas pu tout de suite. Je suivais de loin le CSBJ. Quoi.
Alors
j'ai pas toujours habité à côté.
Vous l'avez toujours suivi et j'imagine que comme vous êtes un vrai supporter, vous avez suivi à la fois les bonnes périodes et les moins bonnes périodes. Ça se passe comment quand on est un vrai supporter, quand ça va moins bien comme la saison dernière?
Ah ben, on est surtout un peu triste parce que même nous, au niveau club de supporters, on ne sait pas bien où on allait pour cette nouvelle saison. Mais ce qui nous a encouragés, c'est le CSBJ, l'aura qu'il a dans toute la France. Nous, on l'a vu au Stade de France il y a 2 ans quand on allait voir le match France-Angleterre du 15 de France. On l'a vu aussi à Vannes, on l'a vu à Perpignan. Les gens étaient tristes pour nous même de voir le stade du CSBJ où il en était. Quoi.
Alors aujourd'hui, c'est aussi le moment où on reprend sa cotisation. Alors je crois que c'est 23 euros hein, je crois, pour adhérer au Club Bergusia, c'est ça?
Oui, alors on a plusieurs tarifs. On a 23 euros... pour les personnes seules, 33 euros pour les couples, et on fait même les moins de 16 ans à 10 euros. Donc ça, c'est vrai que cette cotisation donne droit à avoir des... C'est surtout pour les déplacements, hein. Et puis on a les déplacements dehors du stade Pierre-Ajon, parce que nous, on a un club de supporters qui essaye de supporter sur le maximum de stades que le CSBJ joue.
Alors, oui, pardon, allez-y.
Et puis, oui, je voulais préciser aussi que dans l'année, on fait 2 réceptions joueurs avec les joueurs, où il y a juste les adhérents du COP et puis les partenaires du COP qui soutiennent le COP depuis longtemps et puis récemment, donc qui viennent avec nous partager des gâteaux que les adhérents ont fait, des sucreries aussi bien salées qu'avec les adhérents. Et puis on fait aussi un repas annuel, généralement c'est fin novembre, début décembre, où les gens aussi, les adhérents, ont un tarif préférentiel, voilà, c'est pour dire d'avoir une ambiance sympathique dans un club de supporters.
Alors, vous avez tout à l'heure parlé des déplacements. On vous a vu mettre beaucoup d'ambiance du côté de Romans. C'était le premier déplacement du CSBJ. Vous êtes parti pour faire tous les déplacements, y compris les plus lointains. Je pense notamment à Strasbourg et Rouen, hein, qui seront pas, comme on dit, la porte à côté.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'à Romans, on a pu emmener 54 personnes l'autre fois de Bourgoin. Donc, avec surtout un tarif préférentiel aussi pour les adhérents et puis un tarif extérieur, parce que nous, on prend tout le monde dans le bus, les déplacements, il n'y a pas de souci, on emmène tous les supporters qui veulent venir. Alors c'est vrai que là, cette année, on a des déplacements quand même assez proches. Donc on a fait Romans, là on va aller à Bourg, au Bonnach, en mairie, et puis il y a un peu plus lointain, donc Strasbourg qui arrive là proche. Et puis on a Rouen, Limoges, Albi, Aix, et puis Tarbes, on verra, parce que Tarbes, c'est vrai que c'est le plus loin qu'on a à faire. Et avec Rouen aussi.
Alors, et puis moi, je précise aussi qu'il y a quand même aussi la bourriche hein, qu'on peut gagner à chaque match à domicile, puisque, voilà, c'est un petit clin d'œil aux auditeurs, je l'ai gagné moi-même. Comment ça se passe, la bourriche? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Ah là, la bourriche, c'est très simple. C'est un ticket de tombola qui est vendu aux 2 entrées, côté Rajon et côté piscine, qui coûte 2 euros. Et avec ça, on peut gagner un jambon cru, une bouteille, et puis là, on va essayer de faire... On va avoir 3 ballons dédicacés cette année par le club, nous a promis, donc on va les mettre à des événements, donc Noël, on verra, peut-être des vacances, on va voir, et puis aussi, on agrémente aussi, au moment des fêtes, de quelques virtuailles en plus, quoi, pour dire, et puis on fera une bourriche en fond aussi au moment de Noël.
Alors, petite dernière question, puisque vous connaissez bien le club, globalement, comment vous la sentez cette saison? Vous avez dit tout à l'heure, il y a une énergie un petit peu positive qui est repartie, on le sent aussi du côté des supporters, et puis les 2 premiers matchs sont plutôt encourageants. Alors, côté Club Bergusia, qu'est-ce qu'on en pense?
C'est vrai que cette équipe, on ne savait pas bien où elle allait, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui arrivaient, il y a quelques anciens qui sont restés, même si certains ont été formés au CSBJ. Ils étaient un peu éloignés dans la région, mais ils sont revenus. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas que nous, d'ailleurs, qu'on ne sait pas les jauger. Les autres équipes aussi, ils ne savent pas bien comment s'y prendre aussi. Mais c'est vrai qu'il y a une osmose qui commence à prendre et une envie de bien faire et d'avoir du résultat. Et il y a un groupe qui a l'air bien vivre, apparemment.
Eh bien, écoutez, Fabrice, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, bonne continuation. Belle saison avec les Ciels et Grenats et sur les routes de France. Donc, à très bientôt. Oui, allez-y.
Je veux juste rajouter que pour les infos, parce que pour les déplacements, on a un site internet, donc c'est www.copperbusier16.fr. Donc on essaye de mettre le déplacement, on essaye de passer par la presse. Il y en a aussi un tableau à rajouter à côté de la boutique. on mette les infos des déplacements, mais c'est vrai que cette année, on les a pas comme on veut, on devrait les savoir 15 jours avant. Donc c'est vrai que ça va être un peu compliqué, mais on va essayer de s'organiser pour essayer d'aller encourager ces Girondins dans toute la France.
Eh ben c'est parfait, merci à vous Fabrice, et à très bientôt au stade Pierre-Ajon alors.
Voilà, pas de soucis, ben, je vous remercie, et bonne soirée à vos auditeurs. Au revoir.
Et comme chaque semaine, un passe-croisé ne serait pas ce qu'il est sans un petit conseil de lecture avec le livre de la semaine. Celui qu'on a choisi est en fait un petit bijou, je crois qu'on peut l'appeler comme ça, de la littérature rugbystique, signé Philippe Guillard. Alors vous savez, Philippe Guillard, c'est le monsieur qui faisait des petites vidéos rigolotes hein, avant les matchs sur Canal+, et c'est aussi celui qui a réalisé un film cher au cœur des rugbymen qui s'appelle Le Fils à Joe. Il a écrit il y a quelques années un recueil de nouvelles qui s'appelle Petit bruit de couloir, qui est à la fois très drôle et très tendre. Et puis surtout, j'ai une pensée émue pour tous ceux qui ont joué un jour au rugby, parce qu'ils vont forcément reconnaître sans peine des coéquipiers dans les différents personnages hein, qui illustrent ces petites tranches de vie ovales. Enfin, pour terminer, passe-croisé ne serait pas non plus ce qu'il est sans une petite phrase rugbystique. Alors, celle-ci, elle est plutôt anonyme, on n'en a pas retrouvé l'auteur, mais on va dire que dans le rugby, il y a ceux qui déménagent les pianos et ceux qui en jouent. C'est pas très gentil pour les avants qui se consacrent aux tâches obscures, mais c'est plutôt sympa pour les trois quarts dont j'ai été dans une vie antérieure, puisque ce sont eux les artistes qui jouent du piano. Voilà, c'est tout pour cette semaine et on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. C'est toujours le mardi 20h et le vendredi 16h et c'est bien évidemment sur Couleur FM. Passe Croisée, c'est le magazine du rugby en Orisaire et c'est sur Couleur FM.